Et je vous dis qu'on est très chanceux côté météo. On est privilégiés. Et là, je le sais, il y en a qui vont dire « Il fait chaud! » Non, arrêtez de dire qu'il fait trop chaud. Là. De toute façon, oui, allez me faire signe que oui, il trouve qu'il fait trop chaud. Allez, je vais te donner des trucs tantôt pour être capable de manger des choses intéressantes, même s'il fait trop chaud. Là, tu vas arrêter de te plaindre, OK?
Oui, mais j'aime mieux faire du ski.
Oui, toi, je sais. Mais juste pour vous dire qu'il va faire 28 degrés aujourd'hui à Montréal, 31 demain, mercredi 32, 31 jeudi. C'est parfait. Profitez-en. Et si les vacances commencent, comme c'est le cas pour ma collègue Isabelle Maréchal, eh bien, profitez-en bien. On a longtemps voulu du progrès dans l'Église catholique. On pensait, avec l'arrivée du pape François, que ça allait arriver. En partie, on peut dire quand même, il y a eu quelques petites avancées. Mais depuis quelques mois, on voit quand même qu'il y a un nouveau souffle de l'ultra-conservatisme religieux, ce qu'on peut appeler la droite religieuse également, qui est très présente, qui a toujours été présente, mais qui l'est encore peut-être davantage. Alain Promkin, chroniqueur des affaires religieuses au 98.5, est avec nous, qui est chercheur également au Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du croire. Est-ce qu'il y a une montée de la droite religieuse? Parce qu'on a vu plusieurs articles. Il y a seulement le livre également du fameux journaliste qui en a parlé également. Comment ça se passe?
Ce qui se passe, c'est que on peut dire que la droite ou l'extrême droite religieuse ouais. prend plus de place au niveau médiatique. Ce qui est arrivé, c'est que suite à Vatican II, tu as beaucoup de penseurs, disons, on va les qualifiés de progressistes dans l'Église, qui se sont tranquillement retirés. Quand on pense que sous Paul VI, on avait décidé qu'il n'y avait pas de pilule contraceptive, et on a vu l'évolution avec Benoît XVI qui a dit non, le condom, ça ne protège pas du sida. Il y a vraiment eu, au niveau de la morale sexuelle, on peut dire que la droite a dominé. Écoute, il faut juste penser que le cardinal Léger, ici, à Montréal, est en faveur de la pilule contraceptive, j'allais dire abortive, là, je m'excuse, mais contraceptive. Il était en faveur. Donc, il y avait beaucoup de cardinaux qui étaient en faveur, mais quand il y a eu la décision de Rome, et on sait, bon, qu'il n'était pas encore pape à ce moment-là, Jean-Paul II avait eu beaucoup de pression, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans l'Église qui se sont dit non, non, on s'en va où avec la réforme de Vatican II? Un autre petit exemple, la messe tridentine. La messe tridentine, c'est la messe où le prêtre est de dos à l'assemblée, et souvent, c'est en latin. Et là, on s'est posé la question, on a éliminé ça avec Vatican II en disant on va faire des messes dans la langue populaire et le prêtre va regarder l'assemblée devant lui. Bon, bien, récemment, en 2017, le cardinal Sarah, c'est le préfet du culte divin. Le préfet du culte divin, c'est que tu as différents ministères à Rome. Et t'en as une qui est sur le culte divin, ça veut dire la messe. Qu'est-ce qui se passe à la messe, entre autres? Là. Et lui avait décidé pour l'hiver 2017, pour Noël, le temps de l'Avent, qui précède Noël, il y avait dit, bon, ben on va revenir au rite tridentin pour Noël et les prêtres vont être de dos à l'Assemblée. Et il a fallu que le pape François intervienne et dise, non, ça va continuer comme c'est là, on va s'adresser directement aux gens. Un petit exemple sur cette messe tridentine, parce que de plus en plus de cardinaux qui la veulent, le cardinal Pell, qui est un personnage très ténébreux, qui a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur des enfants mineurs, ben lui aussi est en faveur du rite tridentin. Aux États-Unis, tu as le cardinal Burke, qui est
cardinal Burke qui emmène large aussi.
Qui emmène large aussi, ouais. Qui conteste ouvertement le pape, qui avait même dit, ben, on va s'arranger avec ce pape-là. Ben, lui aussi est en faveur du rite tridentin. Le cardinal Di Nardo, qui est le président des évêques américains, qui est aussi dans une tourmente parce qu'il y a eu des perquisitions à son archidiocèse à Houston, lui aussi, ben, il dit, je suis pas contre le rite tridentin. Et là, on s'aperçoit que tu as de plus en plus de cardinaux qui s'expriment ouvertement en disant, ben, le rite tridentin, c'était peut-être pas si mauvais. Puis oui, on devrait le permettre. Puis oui, on va commencer à permettre la messe en latin. Mais c'est ça que Vatican II, dans sa réforme, avait dit, écoutez, on va faire ça dans le langage populaire. Et on revoit de plus en plus des prêtres qui portent le col romain. Ce qui avait disparu à Vatican II. Donc, il y a beaucoup. Mais pourquoi?
C'est ça, le recul vient d'où, là?
C'est que la gauche n'est plus là. On a un vieillissement des communautés religieuses. Le nombre de prêtres, le nombre de religieuses est en décroissance. Et ceux qui entrent dans ces communautés-là, les plus jeunes, sont peut-être de droite. Juste, il faut que je te lise cette citation-là. C'est du cardinal Avis. Le cardinal Avis, c'est celui qui est en charge de toutes les communautés religieuses sur la Terre. C'est son ministère à lui. Eh bien, lui, il dit, on a environ 70 nouvelles familles religieuses qui ont été l'objet d'une attention particulière de notre dicaster avec des cas préoccupants, de graves problèmes de personnalité parmi les fondateurs et des phénomènes de plagiat et de forts conditionnements psychologiques des membres. Et lui, et quand on parle à certains prêtres, ils vont dire, bien, on regarde les combats qu'on a montés, les combats sociaux, puis on se dit, est-ce que la nouvelle génération, c'est pas plutôt la droite qui dit, ben écoute, nous, on veut entrer dans les ordres religieux. Et c'est vraiment une grosse interrogation. Mais il y a ça, c'est que les grands, comme le cardinal Martini, qui, d'après moi, était en faveur pratiquement de l'ordination des femmes, ils sont plus là. Donc, les grands combats, ordination des femmes,
mariage homosexuel.
Mariage LGBT. Mm-hmm. Et pendant ce temps-là, dans des églises protestantes, ben, t'as des femmes qui sont évêques. Et t'as des LGBT qui sont évêques. Et c'est ça, donc, est-ce que l'Église catholique a décidé de suivre ou non? L'impression actuellement, c'est qu'on a décidé de ne pas suivre. Mais là, je ne rentre même pas dans les grandes questions sur l'avortement, sur la fin de vie, mais juste sur les questions simples. Là. La contraception, on est encore...
mais ça, l'Église ne court pas à sa perte en étant aussi de droite, en étant aussi... Parce qu'on a souvent parlé de l'Église catholique comme étant la surpuissante, qui avait des tentacules un petit peu partout, oui. Parce que là, on parle beaucoup de Vatican, mais quand même, ça encore... Puis je sais qu'au Québec, on va plus ou moins dans les églises, on se dit plus ou moins religieux, mais ça a quand même une influence dans nos vies. Là.
Oui, pas, parce que l'être humain se demande toujours est-ce qu'il y a un sens à la vie, puis il y a toujours la recherche du sens de la vie. Quand la maladie frappe, quand la mort frappe, les gens disent écoute, qu'est-ce qui arrive après? C'est une question qu'on ne pourra jamais enlever de l'être humain. L'être humain se pose toujours cette question-là. Il y a différentes solutions. Il y en a qui vont dire ben non, il n'y arrive rien après, c'est l'athéisme. D'autres vont dire non, il y a quelque chose après. Et là, il y a plusieurs croyances qui se sont développées pour après la mort. Mais ce que les gens veulent, ceux qui vivent dans l'Église catholique, c'est dire, on fait quoi? On sait que dans les églises au Québec, c'est les femmes qui s'occupent de la pastorale.
Oui.
Mais il n'y a pas de femmes prêtres. Est-ce que leur décision de dire, on va faire ça, ben après ça, non, nous, on décide, bon, on ne change pas, puis on va rester dans nos messes traditionnelles. Et ça, c'est un des enjeux. Mais le vieillissement du clergé, les gens de gauche qui ne sont plus là, regarde dans le temps. Je ne sais pas si tu te souviens de la pièce de théâtre, Charbonneau et le chef.
Oui.
Bon, dans okay, on revient quelques années. Le chef était Maurice
blancs,
Duplessis.
Alain.
Oui, j'en ai un petit peu. Mais Maurice Duplessis étant le chef Charbonneau, Monseigneur à cette époque-là, bon, tu avais des évêques qui prenaient des positions politiques pour les travailleurs dans le cas de la grève d'asbestos. Mais ces combats-là, est-ce qu'ils sont encore menés par les dirigeants religieux du Québec? Est-ce qu'on les voit aller en disant, ben nous, le salaire minimum, il devrait être à 15 $ de l'heure. Nous, on pense que voici ce qu'on devrait faire avec les migrants. On le voit à peine. Mais le pape François, de son côté, lui a pris le bâton du pèlerin pour les migrants en disant, c'est effrayant ce qui se passe aux migrants, puis il faut travailler en faveur des migrants et qu'est-ce qu'on fait pour les fins de vie. Mais les grandes questions sociales, si l'Église n'est plus dans les grandes questions sociales...
Mais l'Église est où?
Bien, c'est la grande question. On est où actuellement? Puis où est-ce qu'on se situe au Québec, dans le monde, en Asie? Puis là, les réponses sont différentes si on est en Afrique, en Asie ou en Europe. Mais c'est la grande question. On est où? Il y en a plusieurs qui disent, bon, on aimerait voir les prêtres revenir en disant le salaire minimum, il faut qu'il soit à 15 $ l'heure. Oui. Pour aider les gens.
Mais j'ai l'impression qu'ils seraient peut-être ramassés un petit peu en disant, oui, mais on se mêle de quoi? On a tassé l'Église, pourquoi l'Église reviendrait aussi?
Oui, mais l'Église a quand même le droit de prendre parole aussi. Dans les débats sociaux. La démocratie, c'est ça. La démocratie, il y a des discours qu'on n'aime pas, mais il faut les entendre quand même.
Exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle la censure, que ça ne fait pas notre affaire.
C'est ça.
10h44, on s'en va à la pause et on continue d'en parler avec Alain Promkin. On s'intéresse à la montée de la droite religieuse dans l'Église catholique avec Alain Promkin. Alain, avant la pause, on parlait de ces nouvelles communautés religieuses qui ont fait surface partout dans le monde. On parlait de plus de 170.
Oui.
Ça avait l'air quand même assez sectaire et on parlait de droite. On est là-dedans aussi. Là, c'est assez important.
Oui, ça, c'est dans les rapports du Vatican, mais ce qu'il faut voir, on va prendre un exemple, comme les Légionnaires du Christ, qui s'est développé beaucoup au Mexique avec son fondateur, M. Maciel, et qui était axé sur la personnalité du père Maciel qui a parti ça. Bon, on s'aperçoit, à un moment donné, je pense que c'est dans les années 90 ou début 2000, qui est pédophile et qui a agressé des enfants, qui a agressé aussi des femmes adultes, qui a eu des enfants... et qui a agressé des séminaristes.
Madame.
On le voit un peu partout. Et là, on fait des procès. Et là, le Vatican enquête, dit, bon, écoute, il y a beaucoup de prêtres qui sont de bonne volonté là-dedans, mais il y a ça. Donc, on va changer les règles à l'interne. Mais les règles à l'interne, c'était basé sur la personnalité du père Maciel. Donc, on avait ça dans les Légionnaires du Christ. Et c'est des organisations qui étaient beaucoup plus à droite, là, au niveau de la rigidité. Mais ça, on l'observe. Puis je veux revenir quand même rapidement sur le fameux cardinal Burke, puis M. Bannon. parce que tu as parlé.
L'ancien bras droit de Donald Trump, oui. Qu'on a beaucoup entendu parler. Et que, bon,
et tu as parlé au début du livre Sodoma.
Sodoma qui fait beaucoup parler aussi.
Qui fait beaucoup parler. Ouais. Bon, mais M. Bannon avait décidé de faire un film à partir du livre de Sodoma sur l'influence LGBT au Vatican. Et le cardinal Burke était dans un président d'honneur d'un organisme qui était dirigé par Bannon et qui était situé à Rome. Et le cardinal Burke, en voyant, wow, là, on va parler d'homosexualité. Non, l'Église catholique est en contre. On a vu quand il y a eu le fameux débat il y a 3-4 ans là-dessus, ils ont dit, on fera pas trop d'accueil. On va les accueillir, mais on va rester quand même très conservateur.
Très froid.
Alors, quand j'ai vu ça, Burke, il a dit, non, je quitte cette organisation-là. Et pourtant, Bannon, c'est pas le gars le plus libéral. Il est plus du côté de Donald Trump.
C'est moi qu'on
Trump.
Peut se dire, oui.
Il est plus du... Et là, on s'aperçoit que même la droite... Et qu'est-ce qui y avait le fameux journal Lifestyle qui en avait parlé? Lifestyle qui est un peu un journal de droite au niveau de l'Église catholique. Je vais vous dire c'est quoi la droite au niveau de l'Église catholique. Le cardinal Supich à Chicago, qui est en faveur d'un accueil au LGBT, qui dit que vous n'allez plus manifester devant les cliniques d'avortement. Eh bien, lui, il se fait... critiqué régulièrement par Lifestyle, qui dit qu'il doit être démis de ses fonctions comme cardinal. Et c'est un journal souvent qui va reprendre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de M. Vigano, qui était l'archevêque, qui avait décrié le pape, qui avait dit le pape doit démissionner parce qu'il encourage les LGBT au Vatican.
Mais il y en a de plus en plus. Et on sent qu'il y a quand même des gens pour pousser le pape François qui se disait plus progressiste. Là, on est rendu avec des cardinaux anti-immigration, anti-avortement, oui. Des climato-sceptiques.
Mais ce n'est pas les nouveaux. Ce n'est pas ceux qui ont été nommés par le pape François, parce que ceux qui ont été nommés par le pape François, dont Supich, eux se font dénoncer, mais il est là. Mais là, c'est que le pape François, au niveau de ses nominations, il va en avoir à peu près sur les 120 cardinaux électeurs, c'est-à-dire qu'ils ont un certain pouvoir, et il en a nommé environ 64. Et c'est pas assez pour vraiment contrôler le collège des cardinaux, mais on sent que de ce côté-là, t'as des cardinaux qui disent, écoute, l'environnement, faut s'en préoccuper. Il y a même un cardinal qui a dit, moi, dans 30 ans, dans mes îles, dans le Pacifique, j'aurais plus de diocèse parce qu'on va être sous l'eau. Ouais. Ben, il y en a qui ont pris des positions, il y en a qui ont une grande ouverture, mais il y a encore les vieilles nominations qui disent, écoutez, là, on bougera pas, puis voici comment de la façon dont on va rester.
Puis au Québec et au Canada, ça se passe comment? On parlait tantôt dans de nouvelles entités religieuses. On n'entend pas beaucoup les cardinaux non plus. On n'entend pas les prêtres.
Bien, pas tellement. Ben, les cardinaux, on n'en a pas beaucoup. De toute façon, au Québec, on a le cardinal Lacroix, c'est tout. Cardinal Ouellet, lui, il est à Rome. Donc, on l'attend un petit peu moins. Le cardinal Ouellet, quand même, il faut lui donner ça. Il a reconnu, il y a plusieurs années, que l'Église avait été déficiente au niveau des droits des femmes, au niveau d'un paquet de questions sociales. Mais on n'a pas cette émergence-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Québec, on est pris dans le scandale de la pédophilie. Et c'est un scandale qui mobilise beaucoup. Évidemment, au diocèse de Montréal. Oui, au diocèse de Montréal, il a dit, ben, écoute, on veut, je pense qu'on a pris l'ancienne juge Trahan, et on va dire, ben, on veut faire une enquête pour savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme prêtre pédophile. Mais on sait aussi d'autre part que tous ces dossiers-là sont dans les dossiers secrets du Vatican qui sont conservés où juste l'évêque a accès aux dossiers secrets où on a un résumé du passé des prêtres pédophiles quand on en a fait un. Donc, mais on sent que cette difficulté-là aussi avec les communautés religieuses est présente au Québec et c'est ce qui monopolise parce qu'il faut que l'Église québécoise et canadienne puisse faire une sortie de tous les cas d'agression sexuelle qu'il y a eu contre les enfants mineurs et aussi contre des femmes majeures parce que tu as aussi beaucoup d'enfants qui sont nés d'une union non officielle entre un prêtre et une femme.
Et qui ne sont pas reconnus.
Mais là, tranquillement, ils commencent à avoir des associations.
Et pour l'avenir, en fait, de l'Église, parce qu'on a beaucoup parlé de la montée de la droite, pas beaucoup de gauche, évidemment, il y a moins de gens qui veulent aller dans les communautés, qui s'engagent en religion, mais ça va aller où? Ça regarde rien de bon, là.
Prévoir l'avenir est toujours extrêmement difficile. Mais un moment donné, quand il va y avoir une sortie de la crise de la pédophilie, et là, l'Église va dire, écoute, est-ce qu'on fait plus confiance aux laïcs? Parce qu'oublie jamais une chose, Catherine. Si on connaît l'ampleur de la crise de la pédophilie, c'est grâce aux victimes qui ont témoigné et c'est grâce aux laïcs. Et mais là, on veut faire une sortie en disant, on vous impliquera pas, vous, les laïcs. On va juste impliquer du côté religieux. Donc, il va falloir qu'on fasse confiance aux laïcs. À ce moment-là, il y a une sortie qui est possible, il y a un avenir qui est possible. Mais je ne peux pas prévenir l'avenir.
Ben, on aurait aimé ça, par exemple. Allez. Oui. J'étais un peu déçu.
Mais je vais Mais ma seule prédiction, c'est que Dan Bigra va être avec nous dans 15 secondes.
Tu fais des bons liens, Alain Bromkin. Merci beaucoup, Dan Bigra. Salut, content de te parler.
Ben, comment tu vas, toi?
Hey, ça va tellement bien de mes vacances de 3 semaines. Moi, je suis rayonnante de vous retrouver à la radio.
Des vacances de 3 semaines. Ça,
c'est ça. Hey, comment ça se passe ton été comme animateur? Bravo.
Moi, j'adore ça. J'ai une espèce de piqûre. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est parce que ça nous renseigne beaucoup. Puis en se posant des questions, puis en posant des questions au monde, ça t'apporte des réponses à toi. On a un paquet de questions qu'on s'est toujours posées, mais tu sais, à voix basse. Des coups, tu les poses à voix haute, puis tu te couches moins niaiseux. Moi, je trouve ça passionnant.
Donc, tu dois te coucher pas mal moins niaiseux le soir depuis quelques semaines, hein?
Je vais attendre avant de me prononcer sur ma propre niaiserie. Ça peut être long. Je vais attendre d'avoir fini ma saison.
Mais ça se passe bien. En tout cas, jusqu'à maintenant, les commentaires sont bons. Je peux le voir sur les réseaux sociaux. Et ce midi, donc, tu vas parler de... Je ne sais pas comment interpréter cette nouvelle complètement. C'est loufoque, mais c'est dramatique. Une femme qui a donné naissance à de mauvais jumeaux...
C'est l'affaire, théoriquement, dans un film, on en rirait. Là. Oui. Mais ça n'a aucun bon sens. Alors, la dame et son chum n'arrivaient pas à avoir de bébé. Donc, elles ont été dans une clinique de fertilité. Ils ont essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Ils ont dépensé jusqu'à 100 000 $ US, ce qui veut dire 800 000 $ canadiens.
À peu près. On est rendu là.
Et puis finalement, ça a marché. Puis elle a donné naissance, eux autres sont asiatiques, puis elle a donné naissance à deux bébés pas asiatiques. Fait qu'ils ont appelé la clinique en disant « Oh, c'est quoi ça, cette affaire-là? » On s'est trompé, vous devez remettre les bébés. Moi, je m'excuse, là, ma blonde, là, que ce soit biologique ou pas, ma blonde accouche d'un bébé. Tu viens prendre le bébé, ça se peut j'ai un couteau dans les mains, ça passe pas au conseil, ça. M'enlèvera pas mon enfant, ma blonde vient de l'accoucher, j'étais dans la salle. Non. Alors, on se demande... À qui reviennent les enfants dans ce temps-là? T'sais, c'est facile de dire, ah oui, l'embryon était... Oui, mais attends un peu, là.
Le droit de l'embryon, c'est quoi, là? Ouais.
Le droit de l'embryon, là, on va retourner aux affaires religieuses avec Alain sur le droit de l'embryon. Moi, je trouve que les droits humains, à un moment donné, l'emportent. Puis moi, je vais plus loin, même si on me... T'sais, on parle toujours des parents biologiques comme étant les vrais parents. Moi, les vrais parents, c'est ceux qui élèvent leurs enfants.
Ceux qui les aiment.
Tu fais devoir avec, tu les aimes, tu t'en occupes, tu les vois grandir, tu es là, tu es présent, etc. Ben, c'est toi le parent, un point, c'est tout.
Peu importe le lien.
Oui, alors, mais là, je me demande, moi, je réagirais très mal. Il y aurait peut-être une bataille. C'est possible, je ne sais pas.
T'es tellement doux, Dan.
Oui. Non, mais pas si tu m'enlevais mon bébé, par exemple. Mais toi, comment tu réagirais?
Écoute, moi, c'est sûr qu'avec mon très mauvais caractère, je le dis, et Paul Arcand me le dit souvent aussi, j'ai un caractère assez franc, assez direct, ça ne passerait pas. Moi, c'est sûr, c'est mon bébé, c'est mes enfants, c'est mon ventre. Vous ne me les enlevez pas. Et il n'y a pas personne, faites-moi n'importe quelle poursuite, amener n'importe quel avocat, c'est mes enfants. C'est
Alain,
tout.
Qu'est-ce que tu as fait? Pas toi qui accouches, mais ta femme. Là.
Ben, le lien est immédiat. Une fois que le bébé il sort du ventre, c'est le tien.
Tu l'as porté le reconnaître.
Pour moi, c'est ça l'enfant biologique. C'est celui qui sort du ventre de la femme. C'est le bébé biologique de cette femme-là. Au moins, ça, on peut. Tu sais, le chum, on peut discuter, là, mais. Ouais.
Bien, sujet intéressant, vraiment. Oui. On t'écoute à midi, mon cher Dan Bigra, ça a été un plaisir. Alain Bromkin, merci beaucoup. On se retrouve cet été, évidemment. À 10h57, on s'en va aux informations. Et après la pause, on s'intéresse à ces séries policières, ces séries d'enquête. Pourquoi il y en a autant? Et qu'est-ce qui nous fascine autant dans la vie de meurtrier? On en parle après la pause.